have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre émission hebdomadaire L'Amérique et vous, Nathalie Barche, pour vous accompagner dans cette émission. Le président américain Donald Trump a annoncé un système migratoire qui intègre davantage de travailleurs qualifiés et qui serait fondé sur le mérite, estimant le modèle actuel faussé par les demandes d'asile qu'il qualifie de fantaisistes. Alors, M. Trump souhaite faire passer la proportion de l'immigration hautement qualifiée de 12 à 57%, assurant que cela rendra le pays plus compétitif. Alors, le président a par ailleurs indiqué vouloir rendre obligatoire l'apprentissage de l'anglais et un test d'éducation civique avant l'approbation des demandes. Le plan prévoit notamment l'arrêt des visas liés à la loterie américaine, la fameuse loterie, et une réduction drastique du nombre de visas de parrainage familial. Alors, pour en parler avec nous, nous avons comme invité Maître Joseph Fin, qui est spécialisé dans le droit des affaires et de l'immigration à Silver Spring, dans le Maryland, ici aux États-Unis. Maître Joseph Fin, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous.
Bonsoir Nathalie, merci de m'avoir sur vos antennes.
Alors, en effet, le président américain Donald Trump a annoncé cette réforme le 16 mai en dénonçant le modèle actuel qu'il estime donc faussé par les demandes d'asile fantaisistes. Alors il a dit « Notre plan va transformer le système américain de l'immigration en fierté pour la nation et sera admiré du monde entier ». Alors il a dévoilé son projet de réforme à la Maison-Blanche et le plus grand changement que nous allons faire, a-t-il dit, c'est de passer la proportion de l'immigration hautement qualifiée de 12 à 57%. Et nous voulons même voir si nous pouvons aller plus haut, a-t-il dit. Il a ajouté d'ailleurs, nous sommes attachés à la porte ouverte que nous voulons créer pour ce pays, mais une grande partie de ces immigrants doit venir par le biais du mérite et des compétences. Alors, Maître Joseph Fin, dans quelle mesure ce type de réforme pourrait-il affecter des personnes qui souhaiteraient se rendre de manière légitime aux États-Unis ?
Nathalie, je voudrais simplement dire que la suggestion, si je peux me permettre de l'appeler ainsi, du président Donald Trump n'apporte rien de nouveau au système d'immigration des États-Unis, d'après mon analyse. Premièrement, il ne peut pas supprimer l'asile parce que c'est une procédure qui a été mise en place par le Parlement. Et comme vous le savez, pour supprimer les lois, il faudrait que ça retourne au Parlement. Et cela n'a aucune chance de succès au niveau du Parlement. Deuxième des choses sur le droit d'immigrer aux États-Unis à partir du mérite, je ne pense pas que c'est quelque chose de nouveau que le président Trump propose. Cela, comme vous le connaissez dans le droit d'immigration, ici il y a une provision sur les gens qui ont des capacités supérieures, à qui on offre la résidence permanente aux États-Unis. On appelle ça le National Interest Waiver Program. Ce sont les gens qui méritent. C'est un truc qui existe depuis. Donc là, la suggestion qu'il va falloir qu'on vienne de l'étranger pour les États-Unis ou bien des autres pays pour les États-Unis parce qu'on mérite, je trouve que c'est un peu absurde. Dites-vous bien que ceux-là qui partent de leur pays pour arriver aux États-Unis, il y en a qui ne sont pas forcément moins méritants. Simplement, ils n'ont pas les moyens de se procurer l'éducation que l'on a lorsqu'on arrive aux États-Unis. Moi qui vous parle, je n'ai pas eu la possibilité d'exercer le droit dans mon pays jusqu'à ce que j'arrive aux États-Unis. Alors si on applique le programme de Donald Trump, ça veut dire que je resterai dans mon pays d'origine qui est le Cameroun et je n'aurai jamais eu la chance d'arriver aux États-Unis. Est-ce que cela veut dire que je mérite moins que ceux qui sont par exemple arrivés ici parce qu'ils ont un peu plus des moyens de s'avancer à l'école, d'aller à l'école? Donc je trouve que ce programme, c'est un peu absurde. Et déjà, je voudrais vous poser la question à vous-même. Est-ce que vous avez entendu le président, hier dans son jardin, vous proposer un plan concret de mise en œuvre de ce projet? Et comment comptait-il faire?
Oui, c'est donc, c'est plutôt une annonce, hein, en effet, pour l'instant, effectivement. Et Maître Joseph Fah, il parle donc des candidatures, on va dire, je reprends le terme, des demandes d'asile fantaisistes. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même un certain niveau, peut-être, certaines personnes qui abuseraient, on peut dire, on pourrait dire, de ces demandes d'asile?
Non, tout à fait, tout à fait. Là, le président a raison. Il y en a plusieurs qui font des demandes d'asile fantaisistes. Mais c'est pour ça qu'on a la possibilité. Vous avez le droit, lorsque vous demandez l'asile, la pétition peut être acceptée ou rejetée. Et si votre demande est rejetée, vous avez un recours contentieux. Vous partez au tribunal et le juge décide si vous êtes, si on vous déporte ou bien si on vous retient. Si vous perdez, vous avez les procédures d'appel. C'est pour ça qu'on a les tribunaux. Vous ne pouvez pas de façon unilatérale décider que les demandes d'asile sont fantaisistes. C'est pour ça qu'on a la justice.
Et alors, dans quelle mesure seraient touchés les migrants africains, notamment par rapport au regroupement familial? Ça, par contre, il y a des mesures hein, qui sont des processus à suivre scrupuleusement, n'est-ce pas, hein, quand on veut regrouper des familles, épouses, enfants, etc. Est-ce que vous pensez que cela pourrait changer selon sa réforme?
Absolument pas. Moi, je ne pense pas qu'il est en train de réformer quelque chose. Moi, je pense que le discours de M. Trump a à voir plutôt avec sa prochaine candidature pour les élections de 2020. Je vous explique pourquoi. Quand il dit qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas venir ici, ou bien il empêche les gens de venir parce que les familles, le chain migration et tout ça, cela ne se fait pas. Vous ne pouvez pas faire venir un cousin, par exemple, ici. Vous comprenez? Et si vous n'êtes pas américain, vous êtes limité par le nombre de personnes que vous pouvez faire venir ici. Un résident permanent, par exemple, ne peut pas faire venir ses parents. Vous allez attendre jusqu'à ce que vous ayez la nationalité. De même, un Américain ne peut pas faire venir un cousin. Vous ne pouvez pas faire venir un grand-père. Il s'agit de la famille immédiate. Vous comprenez un peu? Et deuxièmement, lorsqu'on parle du mérite, moi je pense que ça va plutôt pénaliser les Américains, les Africains. Dites-vous bien qu'ici, la plupart des ingénieurs, la plupart des Africains qui sont aux États-Unis sont très éduqués. Vous comprenez? On a des ingénieurs, on a des avocats, on a des médecins, tous qui sont formés aux États-Unis. Plus ils sont partis des pays, de leur pays sans parler anglais, moi qui vous parle, je suis parmi eux, et j'en ai beaucoup de confrères qui n'ont pas parlé anglais lorsqu'ils étaient dans leur pays d'origine, qui aujourd'hui parlent très bien anglais, parce qu'ils se sont mis au travail.
Mais alors justement, Maître Joseph Fah, Monsieur Trump a également indiqué vouloir que l'apprentissage de l'anglais soit obligatoire chez les migrants, et aussi ces derniers devront passer un test d'éducation civique avant l'approbation de leur demande, a-t-il précisé. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup au test que l'on passe pour avoir la citoyenneté américaine. Hein, et les immigrés qui passent la frontière mexicaine, comment sont traités leurs dossiers à l'heure actuelle à ce niveau-là, ne serait-ce qu'au niveau, par exemple, des familles, des regroupements des familles?
Bon, dans le cas des immigrés qui traversent la frontière, vous venez ici, vous n'avez pas appris l'anglais, ça fait 20, 25 ans que vous êtes là, vous ne connaissez pas parler l'anglais. Naturellement, ça vous empêche de devenir américain, mais ça ne vous empêche pas d'avoir la résidence permanente. Et si vous n'avez pas la nationalité, vous êtes limité en termes de regroupement familial, vous ne pouvez pas faire venir toute votre famille ici. Donc, si vous ne pouvez pas parler anglais, il y a un verrou, vous ne pouvez pas avoir la nationalité. Et si vous ne pouvez pas avoir la nationalité, vous n'avez pas la possibilité de faire venir, par exemple, vos parents. Vous comprenez? Donc, pour moi, je trouve que le test d'anglais qu'il est en train d'imposer, je ne sais pas trop bien où est-ce que ça se situe exactement dans le processus du maintien et de la fermeture des frontières aux étrangers. Sinon, je ne sais pas si vraiment ça a été étudié. Et je doute vraiment que cela ait des chances de succès au niveau du Congrès.
Alors restez avec nous, Maître Joseph Fah. On va prendre certains de nos auditeurs hein, qui ont commenté le sujet sur notre Facebook. Mais avant cela, je voudrais citer Honoré Zo, hein, qui a écrit sur notre Facebook « Pourquoi commenter une loi qui ne sera jamais adoptée, tout comme son histoire de supprimer Obamacare ou construire un mur autour de l'Amérique ?» Donc un commentaire qui rejoint un petit peu le point de vue, le commentaire de Maître Joseph Fah. CFA. Quincy Steven, lui, a écrit sur notre Facebook, l'obligation du test d'anglais pourrait être un problème majeur pour des non-anglophones de contribuer à la diversité de la population américaine, car nous avons beaucoup de témoignages de personnes qui ont immigré aux États-Unis sans une réelle maîtrise de l'anglais, mais qui sont parvenues à s'intégrer dans la société et ont fini par créer des emplois, dit-il, et il poursuit, cette condition sur la langue donnerait plus de chances aux anglophones d'immigrer aux États-Unis, laissant moins de chances aux non-anglophones de vivre le rêve américain. En conclusion, je dirais que cette réforme n'est pas trop bonne pour la diversité de la société américaine, dit-il. On a un auditeur en ligne. C'est Jean Sokola qui est en République démocratique du Congo et lui qui pense que l'initiative est très bonne. Il appelle cela gagnant-gagnant. Jean, bonsoir, on vous écoute.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA. Bon, à mon humble avis, je serais un peu d'une manière opposée par rapport au précédent, le maître. Alors moi, selon moi, je suis en train d'analyser l'esprit, parce qu'il y a un problème, nous avons l'esprit et la lettre. Alors moi, je vais aborder d'une manière à analyser plus l'esprit. Alors, selon moi, l'esprit qui a animé le président Trump, c'est de dire, en d'autres termes, tout le monde qui veut migrer aux États-Unis doit contribuer. Alors, parce que les gens pensent aujourd'hui qu'on peut échouer chez toi. Et puis, une fois tu es migré aux États-Unis, tu as la vie facile. C'est cet esprit-là qui, à mon humble avis, animait le président de la République de prendre ce genre de dispositions. Alors, je ne peux pas m'enterrer, moi, à des termes là faciles. Non, non, il y a des problèmes de langue qu'on sort. Les problèmes de langue, oui, ça c'est une évidence. Mais parce qu'on sait très bien que ça c'est une voie de communication. Mais moi, je peux vous dire, par exemple, un cas ici chez moi, en République démocratique du Congo, selon laquelle on retrouve des Chinois qui sont ici chez nous, qui ont venu, par exemple, pour les 5 chantiers, mais qui n'ont jamais été sur la voie ou qui n'ont jamais été au chantier. Ils se retrouvent abusivement dans des carrières minières et consorts. C'est dans cet esprit-là que le président Trump veut ramener les migrants selon lesquels tu es ou tu veux rester aux États-Unis. Tu dois travailler, mais ne pense pas que...
Merci beaucoup Jean. Je voudrais qu'on continue la discussion, notamment avec quelques questions que j'ai encore à poser à Maître Josepha à propos de la main d'œuvre ouvrière, notamment des emplois à faible revenu qui ne requièrent pas de diplôme, les emplois domestiques, on peut en citer beaucoup. Est-ce que ces pays occidentaux n'ont pas justement plus besoin de ce type de population qui pourrait répondre à ce type d'emploi, étant donné que ce sont des emplois que maintenant, dans nos pays, plus beaucoup de personnes veulent les faire.
Tout à fait, Nathalie. N'allons pas chercher plus loin. Regardons simplement dans le domicile même de M. Donald Trump lui-même. Son domestique, c'est quelqu'un qui ne parle pas vraiment anglais. À moins qu'il ait changé, mais avant qu'il n'occupe la Maison Blanche, son personnel de ménage, c'était des Hispaniques, des gens qui ne parlaient pas franchement anglais et qui n'avaient pas vraiment de carrière, si on veut parler d'éducation. Nous prenons également dans le cadre de l'immigration choisie ou bien l'immigration basée sur le mérite. Est-ce que vous êtes en train de demander que tous les docteurs du Cameroun, tous les docteurs de la République démocratique du Congo migrent vers les États-Unis parce qu'ils ont une bonne éducation? Et qu'est-ce qu'on en fait de ceux-là qui sont restés au pays et qui ont besoin de docteurs sur place? Moi, je pense qu'il faut regarder plutôt dans le sens inverse. Est-ce qu'on ne peut pas venir faire former les gens ici et les retourner dans leur pays s'il s'agit vraiment de chercher l'égalité? Première question. Deuxième question, qu'est-ce qu'il a fait de DACA? On a beaucoup de problèmes d'immigration qui ne sont pas résolus ici, même à l'intérieur des États-Unis.
La question des Dreamers notamment, et vous avez en effet parlé, on a déjà effectivement la fuite des cerveaux, hein, comme vous l'avez dit, c'est le cas. Et on se demande comment définir le mérite et les compétences d'ailleurs dans un monde où cela diffère en fonction des pays, à commencer au plan de l'éducation. Et je voudrais vous poser une question. Alors il a dit, les demandeurs d'asile légitimes sont remplacés par ceux qui déposent des demandes fantaisistes et donc en présentant sa réforme. Moi, je pense à ces chauffeurs de taxi que nous connaissons tous, qui sont soit ingénieurs, soit universitaires. C'est leur cas aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que cela changerait-il si vraiment on appliquait ce type de réforme à partir du moment où ces gens qui sont déjà diplômés se retrouvent étant chauffeurs de taxi ? Allô, maître Joseph, vous m'avez entendu ?
Oh, je vous ai perdu là, au moment où j'ai pu...
Voilà. Donc, en fait, ce que je disais, c'est qu'on parle effectivement de faire venir les gens aux États-Unis sur le mérite et les compétences. Et moi, je pense à tous ces chauffeurs de taxi que nous connaissons tous aux États-Unis qui sont soit ingénieurs, soit universitaires. Alors, déjà aujourd'hui, ces gens-là, ils ont des diplômes, mais ils n'ont pas d'emploi, on va dire, qui correspond à leur diplôme aux États-Unis. Donc, qu'est-ce que cela changerait si une telle réforme comme celle que propose Donald Trump était appliquée à partir du moment où les gens qui sont déjà diplômés et qui viennent de l'étranger n'ont pas de travail convenable qui correspond à leur diplôme?
Absolument pas. Absolument, je ne vois aucun changement et merci d'avoir posé cette question. Moi, je suis en train de me demander, avec le système éducatif américain, il est unique. Il ne ressemble à rien d'autre, aucun autre système dans le monde. Il va falloir donc arrimer le système éducatif américain par rapport à celui du reste du monde entier. Vous qui partez de la République démocratique du Congo, vous avez fait 20 ans d'avocature là-bas, vous avez un doctorat, vous travaillez depuis peut-être 15 ans comme chirurgien. Quand vous arrivez ici, aucun hôpital ne va vous recruter comme chirurgien. Vous êtes obligé de vous remettre dans les rangs comme tout le monde. Vous partez de votre pays, 15 ans d'ingénierie, vous venez aux États-Unis, vous êtes chauffeur de taxi. Parce qu'aucune entreprise ne va vous recruter parce que votre formation à la base ne répond pas aux normes des États-Unis. Donc, on est là-bas, on a le même problème au départ. Donc, sa suggestion de l'immigration choisie sur, basée sur le mérite, je ne vois pas dans quel sens c'est encore en train d'aller. Et jusqu'ici, je me réserve de faire beaucoup de commentaires là-dessus parce que j'attends voir une proposition concrète que le président va nous proposer. Parce que jusqu'ici, aucun de ses conseillers ne vous présentera un document officiel qui vous explique exactement comment est-ce que cela sera fait et quelles sont les conditions à remplir pour qu'on détermine que vous avez le mérite requis pour immigrer aux États-Unis.
Restez avec nous, maître Joseph. On va continuer la discussion, notamment avec des auditeurs. J'en profite pour lire le commentaire de Camille Maguengue qui pense que le président américain a raison et qu'il faut une immigration responsable. On a le commentaire de Fabrice Moutella qui, lui, dit soutenir à 100% car il pense que la loterie sélectionne sans tenir compte de plusieurs capacités. Cette nouvelle méthode d'immigration est attendue avec impatience. Donc ça, c'est le point de vue de Fabrice sur notre Facebook. On a Dieudonné Ntoubassage. Lui, il dit que c'est plus efficace si le suivi sans parti pris est assuré. Il est en République démocratique au Kasaï oriental. On essaie de le joindre. Et on a Mboukoulou Winner qui lui dit je n'irai pas aux États-Unis. Quant à Shérif, il pense que c'est un modèle inefficace. Et Sels et Gallo, il pense que c'est une très bonne initiative de la part du président. Donc voilà des avis partagés. On a Steve Boko en ligne et en fait nous avons Vincent d'abord. Vincent Seounou qui est au Bénin à Parakou. Et Vincent, bonsoir.
Oui, bonsoir Nathalie.
On vous écoute.
Effectivement, moi je pense que les régimes hommes d'affaires américains de Donald Trump ont vraiment créé le problème dans le monde économique et linguistique. Qui parle de l'économie parle de la linguistique parce que quand il y a l'argent, on doit faire la communication. Mais sans la communication, on ne peut pas trouver de l'argent. Mais vous insistez sur la compétence ou bien quoi, ce qu'il appelle. Mais si celui que vous avez devant a dans son contenu, il a quelque chose, mais la forme, sa forme ne montre pas. Est-ce qu'on peut rejeter celui-là? Mais celui qui parle, il s'exprime bien anglais, mais pourtant, il vous dirait qu'il sait faire quelque chose. Mais dans la pratique, vous ne le verrez pas. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais moi, je vois que Donald Trump est en train de barrer la voie pour ceux qui ont l'ambition de voyager sur l'Amérique ou bien de voyager sur les États-Unis d'Amérique. C'est ce que je veux lui dire. Parce qu'on ne veut pas aller imposer l'anglais à tout le monde. Bien que l'Afrique aussi est un continent. Mais si quelqu'un comme moi veut voyager sur l'Amérique, alors que chez moi, je suis un francophone et je ne maîtrise pas la langue anglaise, mais qu'est-ce que moi je vais faire? qu'est-ce que moi je vais devenir alors que j'ai des projets pour l'Amérique, j'ai des projets pour devenir quelqu'un ou bien pour faire développer l'Amérique. Donc moi je pense que Donald Trump est en train de nous chasser parce que j'ai l'Amérique comme une entreprise. C'est tout ce que je vais lui dire.
Mais merci beaucoup Vincent. C'est où nous, je vais utiliser votre exemple. Ce que vous venez de dire pour poser cette question à Maître Josepha, en effet, Vincent vient de dire que lui, il a quelque chose à apporter aux États-Unis. Alors ma question sera celle-ci. Peut-on ou doit-on compter sur l'immigration pour être un pays compétitif? À savoir, est-ce que l'on peut envisager un système d'immigration qui serait, on va dire, gagnant-gagnant, qui serait gagnant donc pour les États-Unis, pour le pays lui-même, et qui serait gagnant pour la personne qui vient, quelle qu'elle soit, je dis bien à quelque niveau que ce soit, personne diplômée ou non.
Tout à fait, Nathalie. Je pense qu'on peut envisager ce processus et je pense que d'ailleurs même, lorsqu'on parle du mérite, lorsqu'on instaure le système de la loterie américaine, demandez-vous, chaque année on sélectionne environ 100 000 personnes, mais on octroie des visas qu'à 50 000, pas plus. Pourquoi? Parce qu'on élimine plusieurs personnes qui ne sont pas déjà qualifiées. Il vous faut un minimum baccalauréat. Si vous n'avez pas le baccalauréat, ou alors une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans un domaine de travail qui requiert l'expérience professionnelle, vous n'êtes pas éligible pour le visa. Donc, ce qu'il est en train de proposer n'apporte rien. Le problème de la langue, moi, je trouve que c'est un problème un peu oblique parce que vous connaissez plusieurs personnes qui arrivent ici. Les 2 premières années ne parlent pas de l'anglais, mais la 3e année, quand vous les revoyez, oh mon Dieu, combien est-ce que vous avez changé? Vous comprenez, nous qui venons d'ici de l'étranger, on parle de nos pays, on se dit on parle anglais. Lorsqu'on arrive aux États-Unis, on se rend compte que l'anglais qu'on parle ici, ce n'est pas l'anglais qu'on parle dans le reste du monde. Il faut s'arrimer, il faut s'aligner si vous voulez être compétitif sur le marché. Et les étrangers, lorsqu'ils apprennent l'anglais ici, croyez-moi, l'écrit est même 1000 fois mieux que certains des Américains qui sont nés ici. Moi, si vous parlez, j'en suis un exemple. Je suis sûr que si on me fait un test d'anglais aujourd'hui, je serais mieux placé que 3 ou 4 Américains. Je suis arrivé ici, ça fait à peine 10 ans.
Et l'on peut être, né aux États-Unis, Américain de souche, et être relativement illettré. Ce n'est pas interdit.
Absolument, absolument, absolument. On en voit tous les jours. Donc, pour moi, je suis en train de dire que je suis d'accord et il va falloir que, quand vous êtes immigrant ici, que le système puisse bénéficier de vous. Mais ceux qui sont immigrés, ils viennent aux États-Unis, s'installent, ils partent à l'école, ils ont un bon boulot, ils paient les impôts, ils font venir les familles vont à l'école, ils ont un bon boulot, ils paient les impôts. Donc, moi, je ne suis pas en train de suggérer que ceux qui ont des dossiers d'asile douteux soient maintenus aux États-Unis et profitent du système. Moi, je suis contre cette formule-là, je suis contre cette façon de fonctionner. Mais également, de façon unilatérale, de vous demander d'avoir un doctorat dans votre dossier, d'avoir l'anglais dans votre dossier, moi, je trouve que c'est pas correct parce que même les étudiants pour venir aux États-Unis, on vous demande le TOEFL, les universités vous demandent les tests d'anglais. Vous comprenez, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau.
Et cela ne vous garantit pas pour autant, comme je l'avais dit tout à l'heure, d'avoir un emploi assuré aux États-Unis.
Pas du tout, absolument pas. Encore que même les gens qui viennent ici avec le doctorat, même si vous avez fréquenté ici, vous venez ici à l'âge de 5 ans, vous fréquentez aux États-Unis et vous finissez avec le doctorat en, je ne sais pas, neurochirurgie ou quoi que ce soit, vous êtes toujours sur le marché en train de compétir avec ceux qui sont nés ici. Vous comprenez? Donc moi, je ne vois pas en quoi est-ce que l'annonce de M. Trump, je vais appeler ça une annonce si vous me permettez, de M. Trump affecte notre processus d'immigration. Je pense qu'à l'heure où nous sommes, il y a des problèmes pressants. Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants qui sont arrivés ici sans aucune faute à leur reprocher, mais pas le fait de leurs parents, ils sont arrivés ici à 3 ans, à 2 ans, et qui n'ont connu aucun autre pays, sinon les États-Unis, qui sont prêts à s'engager aux côtés des États-Unis dans les batailles, à protéger la constitution des États-Unis. Ils ont fréquenté dans les écoles américaines, ils ont tout ce qu'il leur faut pour être américains, mais ils n'ont pas eu la chance d'être nés aux États-Unis, ou alors ils n'ont aucune possibilité de devenir américains, parce qu'ils sont nés dans un autre pays avant de toucher le sol américain. Qu'est-ce qu'on fait de cela? Ça, c'est un problème d'immigration pressant. Je vous disais tout à l'heure que la proposition de M. Trump, à mon avis, me fait penser aux élections qui approchent plutôt très vite. Et c'est dans ce sens que, sachant qu'en termes de priorité, on a le domaine de l'assurance médicale et puis on a l'immigration, les électeurs sont plus concernés par ces deux choses. Si M. Trump a déjà perdu au niveau de l'assurance médicale, qu'est-ce qu'il lui reste à faire pour agiter sa base, pour émouvoir ses électeurs? Il faut parler de l'immigration. Ah oui, on va refermer les frontières, Allez regarder combien de docteurs sont les étrangers aux États-Unis. On a combien d'Indiens qui sont docteurs?
Les et oui, en effet, ici, un grand merci, Maître Josepha. On arrive au terme de cette émission. Maître Josepha, qui est spécialisé dans le droit des affaires et de l'immigration à Silver Spring, ici aux États-Unis. Un grand merci à Michel Joseph à la production et bien entendu à tous nos très chers auditeurs. À très bientôt. Bon week-end à l'écoute de VOA Afrique et de la suite de nos programmes.